Chapitre 14. Épilogue. Antoine mit plusieurs mois à se remettre. Yvette passa le plus clair de son temps à son chevet. Durant toutes ces heures côte à côte, ils eurent le temps de se retrouver, de se pardonner et de se réconcilier. Ils retrouvèrent même les émotions de leur première rencontre. Tout était à reconstruire, une nouvelle vie se présentait devant eux. Pour bien comprendre toute l'histoire, il faut remonter une année en arrière. Jean-Claude Martin avait été contacté par des membres de la mafia italienne. Il s'agissait de blanchir de l'argent et il y avait gros à gagner. Les Italiens proposèrent de lui vendre des moteurs de bateaux fictifs par l'intermédiaire d'une société écran basée à Turin. Puis, par l'intermédiaire d'une autre société écran, il lui rachèterait ses moteurs au prix fort. Pour eux, l'argent douteux partait clandestinement en France et Jean-Claude Martin se débrouillait pour camoufler une partie de ses rentrées d'argent avec des fausses factures. Dans l'autre sens, les Italiens récupéraient une bonne partie de leur argent de façon très officielle puisqu'il s'agissait du règlement de factures qui leur était adressé par la société Martin et Monnier. C'est à ce moment-là que Jean-Claude Martin licencia la comptable trop intègre de la société et la remplaça par sa secrète petite amie qui était dans la combine et faisait tout ce qu'elle pouvait pour contribuer au camouflage de ces grosses sommes qui entraient et sortaient. À petite vitesse, le système aurait pu fonctionner longtemps sans gros soucis, mais les Italiens se montrèrent de plus en plus gourmands et voulurent blanchir des sommes de plus en plus importantes. Jean-Claude Martin protesta, il prenait de plus en plus de risques. Mais il était piégé et ne pouvait plus faire marche arrière sous peine d'être dénoncé. Cependant, le trafic prenait de l'importance. Il devint difficile à garder secret et Antoine Monnier se rendit compte qu'il se passait des choses curieuses dans la société. Il voulut avoir des éclaircissements, ne put les obtenir et la tension monta entre les deux associés. Comme parallèlement, la tension montait aussi avec sa femme et que ses enfants avaient pratiquement disparu de la maison, il jugea qu'il n'avait plus rien à faire ailleurs, il laissa tout tomber et disparut un dimanche matin. Il partit à pied, tournant en rond dans la campagne environnante et finit par se diriger vers la gare. Avec le peu d'argent qui restait dans son portefeuille, il prit un billet de train pour Lyon. Il comprit qu'il lui fallait mettre de la distance entre Yvette, Jean-Claude et lui. Pas question de prendre le risque de se trouver face à face avec l'un ou l'autre au coin d'une rue. À Lyon, il resta quelques jours à traîner autour de la gare, fit connaissance avec les clochards du lieu. Puis, vite lassé par cette vie de parasite entre des murs de béton, il partit à pied chercher à la campagne une vie plus saine. Après diverses rencontres, un beau matin, il vint sonner, épuisé et affamé, devant la grille du monastère du Val-Dieu. Il en repartit quelques semaines plus tard, fut hébergé quelque temps par notre curé. Puis, dans une maison inhabitée, il repéra une cave qui était libre et où il espérait vivre tranquille sans attirer l'attention de personne. Jean-Claude Martin commença par se frotter les mains de la disparition de son associé trop curieux, puis il réfléchit qu'il pouvait tirer un parti encore plus intéressant de la situation. Il pouvait récupérer les parts d'Antoine dans la société. Ainsi, il resterait le seul patron et serait plus à l'aise pour faire ce qui lui plairait. Ses parts, il n'avait pas d'argent pour les acheter. Les banques lui en auraient sans doute prêté, mais il ne tenait pas à ce que quiconque mette son nez dans ses comptes. Il imagina donc de retrouver Antoine et de le forcer à lui céder ses parts pour un montant symbolique. Il avait à sa disposition un moyen de pression formidable. Pour tout le monde, Antoine avait disparu. Il n'avait plus de domicile fixe, c'était presque comme s'il n'existait plus. Il n'y aurait donc aucun problème à le supprimer, puis à faire disparaître le corps en mer. Personne ne s'en rendrait compte. Aucune recherche ne serait entreprise. Antoine aurait le choix entre signer ou mourir. De toute façon, après avoir cédé ses parts, il faudrait bien qu'il disparaisse à jamais. Pas question de le laisser libre de porter plainte et de subir les énormes complications que cela entraînerait. Mais Jean-Claude Martin devait d'abord retrouver la trace de son associé. Il s'adressa à un inspecteur de police véreux qu'il connaissait et qui, pour une certaine somme d'argent, acceptait de chercher le renseignement. Celui-ci eut de la chance. Antoine Monnier avait été contrôlé 10 jours plus tôt par la gendarmerie lors d'un contrôle de routine et leurs renseignements étaient disponibles en informatique. Jean-Claude Martin envoya alors sur place son homme de main, le fameux Francesco. Celui-ci connaissait Antoine de vue, il ne lui fallut que 2 jours pour l'identifier, le suivre et repérer son logis. Profitant de son absence dans la journée, il put visiter tranquillement la petite cave. Il eut l'idée d'ajouter un soporifique dans la bouteille d'eau. Il revint la nuit suivante, gara son véhicule juste devant la porte. Il n'eut qu'à traîner Antoine tout endormi, à le charger dans sa voiture et à le ramener directement chez Jean-Claude Martin qui lui avait préparé un cachot tout neuf. C'est là qu'Antoine, assez surpris, se réveilla péniblement le lendemain. Malgré les promesses et les menaces de Jean-Claude Martin, malgré les privations d'eau et de nourriture, il refusa absolument de signer quoi que ce soit. Celui-ci dut se résoudre à changer de stratégie. Il fallait commencer par se débarrasser définitivement d'Antoine, puis il remplirait lui-même les papiers de vente en imitant la signature de son ex-associé. Jean-Claude Martin était un filou qui n'avait pas beaucoup de scrupules, mais de là à tuer un homme de sa main, surtout quelqu'un qu'il connaissait, qui ne lui avait jamais fait de mal et qui était encore un ami il y a peu de temps, il y avait un pas à franchir. Il sentait bien qu'il n'en aurait jamais le courage. Francesco avait refusé lui aussi de supprimer Antoine. Il avait déjà eu trop d'ennuis avec la justice. Après plusieurs années de prison, il s'était rangé. Il vivait de petits trafics plus ou moins licites, mais il refusait de devenir un assassin. Jean-Claude Martin demanda alors à ses contacts italiens s'ils accepteraient de se charger de la disparition d'Antoine. Ils refusèrent eux aussi, prétextant qu'ils avaient déjà suffisamment de cadavres sur les bras, et que ces disputes entre associés français ne les regardaient pas. Jean-Claude Martin ne savait plus quoi faire de cet encombrant associé qu'il hébergeait officieusement dans son sous-sol. N'ayant presque rien à manger, Antoine avait perdu toutes ses forces. Il ne pouvait plus se lever et passait ses longues journées à somnoler. Jean-Claude Martin perdit patience. Il prenait des risques. Et si Antoine mourait, il lui faudrait transporter le cadavre, ce qui ne l'enchantait pas du tout. Francesco proposa alors une solution. La petite cabane de berger au-dessus de sa maison. Personne ne passait jamais par là, il serait simple d'y abandonner Antoine. Il mourrait tout seul d'épuisement, de faim et de soif. Ceux qui le trouveraient ne seraient pas étonnés. Un clochard malade serait venu s'abriter là. Ne pouvant appeler à l'aide, il serait mort d'épuisement. La mort paraîtrait naturelle. L'autre avantage, c'est que cela se passerait loin de hier et que Jean-Claude Martin ne serait pas inquiété. Le transfert eut donc lieu une nuit. Antoine fut installé dans la cabane de berger. Mais Francesco, qui n'avait pas l'âme d'un tueur, prit Antoine en pitié et continua de lui apporter à boire et à manger, sans toutefois en faire trop pour qu'il ne puisse retrouver ses forces, s'enfuir et les dénoncer. Chez lui, sur la presqu'île de Gien, par différents objets déplacés, Jean-Claude Martin s'était bien rendu compte que sa maison avait été visitée. Comme rien n'avait disparu, il pensa aussitôt qu'aussi invraisemblable que cela paraisse, la police enquêtait et cherchait des indices. Le cachot construit au sous-sol l'accusait et il se dépêcha de le démolir, mais il était un peu tard. Il se mit à réfléchir sur les risques de sa situation et parvint à se convaincre que la police était sur ses talons et qu'il lui fallait fuir au plus vite. À son dernier rendez-vous en mer avec les Italiens, il leur demanda de le prendre à leur bord pour l'aider à filer en Italie. Pour les convaincre de l'urgence de la situation, il leur désigna le petit bateau de pêche qui paraissait plus occupé à se donner une contenance qu'à pêcher du poisson. Les Italiens reconnurent que la présence et le comportement de ces pêcheurs étaient assez curieux. Ils décidèrent de s'occuper de ceux qu'ils croyaient être eux aussi des policiers en planque, mais ils refusèrent d'aider Jean-Claude Martin à s'enfuir et ils se quittèrent fâchés. Furieux, il fit demi-tour et repartit au plus vite vers la côte, soi-disant sans se retourner. Il nie encore aujourd'hui avoir vu le gros yacht couler le canot et disparaître sans porter secours aux 2 naufragés. Arrivé au port, il ne remarqua pas les 2 jeunes filles qui le surveillaient depuis leur vieux voilier. Il amarra son bateau, reprit sa voiture et fonça chez lui. Mais, arrivé dans sa rue, ce qu'il vit le dissuada de s'arrêter. En face de son portail stationnait une petite camionnette, et dans cette camionnette, il distingua le bout rouge d'une cigarette. Il comprit qu'on l'attendait. C'était bien la police qui, sur les indications de mon père et suite à la découverte du cachot, surveillait la maison. Jean-Claude Martin comprit immédiatement qu'un piège était installé autour de chez lui. Il ne s'arrêta pas et poursuivit sa route. Il roula directement jusqu'à hier et arrêta sa voiture sur le parking de sa société à son emplacement habituel. Il ressortit à pied, marcha un peu et alla sonner à la porte d'Yvette Monnier pour lui emprunter sa voiture tout en lui imposant le silence. Pour rassurer Yvette qui paniquait, il lui promit qu'elle allait revoir son mari. Il omit de préciser « mort ». Et pour lui faire peur, il lâcha le nom de Francesco dont il croyait qu'Yvette connaissait la réputation. Au volant de la petite voiture verte, il fila ensuite dans le centre d'Hyères, chez sa maîtresse, la jolie comptable de sa société. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises dans différents casinos. C'est leur amour commun pour l'argent qui les avait rapprochés, malgré la différence d'âge. Pour plus d'efficacité, ils avaient décidé de garder leur liaison secrète. La jeune femme était très intelligente et son amant savait apprécier la valeur de ses conseils. Leur complicité dans les affaires faisait qu'elle était au courant de tous les projets et les affaires de son amant. Une certaine tendresse les unissait quand même, et si Jean-Claude Martin avait d'abord envisagé de fuir seul, il était bien aise de pouvoir le faire en compagnie de sa bien-aimée. Il lui expliqua que tout était découvert, même s'il ne pouvait s'expliquer comment cela avait pu se faire. Il n'y avait plus qu'à fuir. Elle fit ses bagages à toute vitesse. 10 minutes plus tard, il roulait sur la route du Lavandou. Alors que le ciel pâlissait, ils s'arrêtèrent chez Francesco à la Villa des Rêves Bleus. Francesco fut plus difficile à convaincre. Il s'était fait ici une petite vie tranquille et il lui répugnait de devoir s'en aller. Mais les deux autres avaient besoin de lui. Il avait encore de la famille en Espagne, dans un coin perdu d'Andalousie. Ils espéraient se cacher là quelque temps. La première étape prévue serait Barcelone, où ils pourraient changer de voiture, puis ils descendraient dans le sud en petites étapes, en changeant systématiquement de nom, d'allure et de moyens de locomotion. La discussion fut longue, Francesco mit tour à tour sur la table tous les arguments qui pouvaient s'opposer à leur départ. En dernier lieu, il parla d'Antoine. À force de monter le voir tous les jours, il s'était attaché au moribond qu'il s'ingéniait à garder en vie sans lui rendre ses forces. Il lui répugnait de l'abandonner et de le laisser mourir seul de faim et de soif. Alors Jean-Claude Martin se fâcha. Son unique but était de passer la frontière au plus vite et l'état de santé d'Antoine lui importait peu. Il fallait à tout prix convaincre Francesco de les guider et de les cacher en Espagne. « Comment ? Il n'est pas encore mort ce cochon ? Nous étions d'accord pour l'abandonner. Ces choses faites, je crois, alors n'en parlons plus. S'il n'est pas encore mort, tant pis pour lui. » Finalement, Francesco comprit que la police finirait fatalement par arriver jusqu'à lui. Il se décida. Il brûla dans la cheminée tout ce qui pouvait le compromettre, y compris quelques paquets de haschich, et mit dans la petite voiture un sac contenant quelques affaires. Ils roulèrent jusqu'au port avec la voiture verte d'Yvette, la garèrent en payant un ticket de parking pour plusieurs jours, afin qu'elle ne soit pas trop vite remarquée par la police municipale. Puis, montant dans le vieux break de Francesco, qui se trouvait stationné devant un garage pour une réparation, ils prirent la direction de l'Espagne. Ils passèrent la frontière sans encombre par la route de la côte. À Barcelone, ils s'installèrent dans un petit hôtel discret et restèrent 3 jours tranquilles. Mais il fallait poursuivre le voyage et donc trouver un autre véhicule. Ayant repéré une annonce pour une vieille camionnette que son propriétaire cédait pour une misère, Jean-Claude Martin décida d'en faire l'acquisition. Accompagné de sa belle, il allait au rendez-vous pris avec le vendeur quand un taxi qui débouchait de droite sans crier gare leur arracha une aile. Le taxi voulait faire un constat, Jean-Claude Martin refusa, le ton monta. Comprenant que l'affaire était mal engagée, il réussit à s'esquiver au milieu des badauds et rejoignit sa belle qui avait déjà pris le large. 2 heures plus tard, ayant récupéré Francesco, il repassait la frontière comme passager dans la voiture d'un Breton qui rentrait chez lui et qui accepta 1 000 euros pour prendre 3 passagers sans poser de questions. Arrivés à Vannes, l'idée d'une fuite par la mer leur vint naturellement. Ils s'installèrent à l'île aux Moines. Ils achetèrent un vieux chalutier à restaurer et se crurent à l'abri des recherches, du moins jusqu'à leur départ. Sans le coup d'œil d'Ursula, ils auraient peut-être réussi leur coup. Ils espéraient changer de bateau en Angleterre et aller aborder quelque part en Afrique à bord d'un voilier. Ils avaient beaucoup d'argent sur eux, ce qui aurait pu leur simplifier bien des démarches administratives. En conclusion, Antoine Monnier finit par retrouver la santé avec l'amour de sa femme. Il a repris la direction de la société Martin et Monnier avec l'aide efficace d'Henriette, qui est devenue une véritable amie de la famille. Stéphane, suite à 2 années d'études à Lyon, a obtenu son diplôme de gestion, puis a pris la direction du chantier naval de son ancien patron. Avec l'aide financière de la famille Monnier et quelques-unes de mes idées, l'entreprise marche fort, puisque nous avons dû embaucher 2 compagnons pour faire face aux demandes de nos clients. Quant à moi, Emmanuel, j'ai bien obtenu mon baccalauréat, mention, ouf ! Puis j'ai passé 2 ans à Annecy pour décrocher un BTS de commerce. Ensuite, j'ai définitivement rejoint Stéphane ailleurs et je m'occupe de toute la partie administrative de la société, en attendant que le minuscule petit bébé que Stéphane m'a laissé le soin de porter prenne des formes et du poids et se décide à nous montrer enfin sa jolie frimousse.